France Culture.
Réplique, Emmanuel Lévinas, le judaïsme et la philosophie, avec Dan Arbib et David Aziza. Difficile liberté et les lectures talmudiques, mais aussi par ses ouvrages philosophiques majeurs, Totalité et Infini, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, Emmanuel Lévinas a fait entrer les traités vermoulus du judaïsme dans la pensée contemporaine. Le judaïsme et pas seulement la question juive. Nous nous interrogerons sur la signification de cet apport avec Dan Arbib, qui participe à l'édition des œuvres complètes de Lévinas, dont le 4e tome vient de paraître, et avec David Aziza, qui publie « Mythe juif, le retour du sacré ». Commençons par un sujet particulièrement sensible, l'élection. Que peut signifier pour un profane aujourd'hui ce que vous appelez vous-même, David Aziza, le mythe du peuple élu ?
D'abord, je pense que on ne saurait trop insister sur la centralité du mythe de l'élection. Il y a des gens, y compris des juifs, que ce mythe fâche ou qui auraient voulu historiquement s'en débarrasser. C'est l'un des axes d'ailleurs de la réforme juive allemande au XIXe siècle. J'ai d'ailleurs lu, il y a quelque temps, sous la plume de quelqu'un de fort bonne volonté, que si par malheur les Juifs croyaient à un tel mythe, je ne sais pas si le mot mythe figurait dans ce propos, mais peu importe, alors on comprendrait l'antisémitisme. Force est de reconnaître que les Juifs croient à l'élection. Ce motif est au centre de la vie liturgique juive, il est répété sans cesse dans la prière, la sanctification du vin. Mais le plus intéressant est que les Juifs moins religieux, même les Juifs c'est-à-dire progressiste, y croit. Un cas paroxystique, à mon sens, de la persistance de cette croyance, c'est pour moi la surreprésentation des Juifs dans le mouvement BDS, dans le mouvement pro-palestinien de boycott d'Israël, en tout cas aux États-Unis. Et cette surreprésentation atteste à mes yeux, chez des gens qui sont souvent relativement désaffiliés d'un point de vue juif, la persistance de l'idée que le peuple juif a un devoir d'exemplarité. Parce que c'est un peuple de prêtres. Et j'irais presque jusqu'à dire que l'obsession anti-israélienne chez les non-juifs témoigne quelque part de la même chose et de la centralité de l'idée d'élection du peuple juif, de l'élection d'Israël, même chez les non-juifs, en tout cas en Occident. La manière dont moi je comprends l'élection est la suivante. Le peuple juif est choisi pour révéler au monde, révéler aux autres peuples, révéler à chaque être humain leur propre part de divinité. On pourrait me rétorquer que ce point de vue est un point de vue apologétique, c'est-à-dire que je chercherais à faire l'économie de ce qui ne va pas, à faire comme s'il n'y avait pas, dans le thème de l'élection, y compris dans les textes juifs, parfois, une tendance au suprématisme ou une forme de racisme, etc. C'est pas du tout ce que je fais, bien au contraire, dans mon livre, je montre comment, à partir de la manière dont moi je comprends l'élection, et qui s'inscrit dans la tradition hébraïque, on peut dériver. Cette dérive est possible et c'est peut-être même l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Et je ne veux pas faire comme ceux qui disent que, vous savez, Daesh n'a rien à voir avec l'islam, l'inquisition n'a rien à voir avec le catholicisme, etc. Ben-Gvir, j'espère ne pas avoir trop cité son nom pendant l'émission, il est juif. Baruch Goldstein était juif, Meir Kahana était juif.
Baruch Goldstein, c'est celui qui a commis le massacre
de Marbella, d'Hébron, absolument. Yigal Amir est juif,
l'assassin de Yitzhak Rabin.
Yitzhak Ginsburg est un rabbin israélien particulièrement fanatique, dont j'évoque à plusieurs moments les positions, parce qu'elles sont aussi atroces que fascinantes en un sens. Il est juif, et j'en passe. Mais je pense que le propre du mythe est de toujours comporter son propre antidote. J'aimerais aussi dire, j'ai dit suprématisme, je dirais pas nécessairement racisme. Il y a un cliché sur le judaïsme, c'est qu'on ne se convertit pas au judaïsme. C'est pas vrai, on s'est beaucoup converti au judaïsme à travers les siècles. Il suffit de prendre d'ailleurs deux juifs et de les mettre dans, ou trois, de les mettre dans une salle de voir qu'ils peuvent avoir des types physiques différents. Il y a une certaine diversité là. Et même dans le mouvement extrémiste, messianiste, des colonies, etc., vous avez des convertis, des descendants de convertis et une certaine multitude raciale. Mais suprématisme, oui. Ce que je pense, c'est que justement, il faut utiliser ce que ce mythe a de meilleur, c'est-à-dire ce pouvoir de révélation qu'a Israël.
Contre ce qu'il peut avoir de dangereux. Absolument. Très bien. Alors, avant de vous donner la parole, Dan Arbib, je voudrais citer ici Robert Le Gros, le philosophe Robert Le Gros, qui a écrit un très beau livre, L'idée d'humanité. Il dit « L'idée d'humanité universelle est née en même temps que le Dieu d'Israël, c'est une invention de Moïse. Le monothéisme juif, c'est un seul Dieu pour nous et tous les autres. Nous, qui avons un seul et même Dieu, et les autres, nous sommes tous des êtres humains. » dit le monothéisme juif, mais justement, notre peuple est certes élu, mais dans la mesure où nous avons été choisis pour annoncer aux autres que nous descendons tous d'un couple originel créé par un seul Dieu. Voilà le sens qu'on peut aussi donner à l'élection. Mais je vous donne la parole, Dan Arbib.
Ce que vous venez de dire, Alain, me fait penser à un mot que m'avait fait entendre un ancien grand rabbin de France. C'était que le monogénisme biblique, le fait qu'il y ait un seul couple à l'origine de l'humanité, a exigé un inceste pour que l'humanité puisse naître de ce monogénisme. Et cela voulait dire que la Bible préfère l'inceste à l'idée qu'il puisse y avoir deux souches dans l'humanité, c'est-à-dire une souche qui pourrait se prévaloir d'une supériorité sur l'autre. Je trouve que c'est très beau parce que ça suggère que dans ce monogénisme, il y a l'idée d'humanité comme unifiée autour d'une seule source. Je trouve que c'est très beau. Alors pour en revenir à Lévinas et à son idée d'élection, je crois qu'il faut partir du projet philosophique de Lévinas, c'est-à-dire de ce que l'on appelle la phénoménologie. Phénoménologie est le nom d'une discipline en philosophie qui vise d'abord à décrire la manière dont les choses nous apparaissent. Les choses, mais aussi, pour Lévinas, les êtres. Et ce que Lévinas met en œuvre, c'est une description de la manière dont autrui apparaît. Et quand autrui apparaît, il se produit que je suis immédiatement sommé par une responsabilité infinie que j'ai à son égard. Pourquoi ? Parce que autrui n'est pas une chose. Autrui ne fait pas nombre avec le décor dans lequel il s'insère. Autrement dit, en vérité, il ne s'y insère pas. J'ai donc à la fois le sentiment de ne pas avoir de prise sur lui, parce qu'il m'échappe toujours, et en même temps le sentiment que la seule prise que je pourrais éventuellement avoir, c'est la destruction. Et c'est pourquoi il m'intime paradoxalement l'ordre de ne pas le tuer. Et ce soin infini que m'intime le visage de l'autre, c'est précisément ce à quoi je ne peux pas me dérober. Alors comment peut-on appeler le fait de ne pas pouvoir se dérober à une tâche que l'on n'a pas choisi soi-même, mais qui nous a choisi ? À proprement parler, l'élection. L'élection, c'est ce qui me requiert sans que je l'aie demandé, et ce qui m'intime une tâche qui est plus grande que moi, plus importante que moi, et à la mesure de laquelle, en un sens, je ne serai jamais. C'est extraordinairement beau parce que je ne me présente pas à l'élection, c'est l'élection qui me requiert. Et donc, cela induit cette proposition de Lévinas, qui est une proposition exorbitante et dont on n'a pas fini de mesurer l'ampleur, à savoir que l'essence de la subjectivité est élection.
Oui, c'est très important. Je peux citer ici Lévinas. L'élection peut se dégrader en orgueil, mais elle exprime originellement la conscience d'une assignation irrécusable dont vit l'éthique et par laquelle l'universalité de la fin poursuivie implique la solitude et la mise à part du responsable. Voilà, tout d'un coup, autrui m'apparaît, son visage, dans sa nudité. C'est le sans-défense même, et donc il m'assigne avant même que je le désigne. Mais alors ça, c'est très intéressant, et là je voudrais avoir votre avis à tous les deux, parce que ça veut dire que Lévinas n'est pas, contrairement par exemple à Béni Lévy, un penseur du retour, de la rupture avec l'Occident, etc. Parce que, d'une certaine manière, il ne fait pas sécession, il fait de l'entrisme. Il fait entrer les catégories juives dans la philosophie. La catégorie d'élection lui permet d'opposer à l'image moderne d'un sujet autonome, souverain, l'autorité, un sujet choisi, désarmé, requis par l'autorité du visage. Élu, ça veut dire presque détrôné. Mais ça, c'est très intéressant, parce que c'est une manière de dire que l'âme humaine est originellement juive. Donc ma question, c'est de savoir si on peut en rester là, parce que reste-t-il à ce moment-là du fait juif, de la facticité juive. Si l'humain est juif, on le voit justement à travers la catégorie de l'élection, alors pourquoi le judaïsme, David Aziza ?
Au fond, je pense qu'il faudrait réellement demander à Lévinas comment, en effet, il s'arrange de formulations catégoriques dans les textes de la tradition juive qui séparent le juif du reste de l'humanité. C'est dit d'ailleurs de façon aussi littérale que cela, « Toi qui nous as choisis parmi tous les peuples ». Et cette formule que je cite à l'instant, elle est répétée, encore une fois, à longueur de temps. Je trouve très belle l'idée d'une espèce de judéité originelle de l'homme. J'aime à dire que le juif, en étant élu, porte en effet témoignage pour l'humanité entière et qu'il délivre un message à l'humanité entière. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il délivre à l'humanité entière le message de sa propre divinité. Je pourrais dire aussi de sa propre errance, en quelque sorte. Le juif est un nomade dès l'origine. Abraham, l'hébreu, c'est le nomade. Très bien. Mais néanmoins, être juif, c'est être, pour citer Joseph Slovitchik, l'un des grandes autorités intellectuelles du judaïsme du XXe siècle, c'est être l'homme de foi solitaire. Et Slovitchik disait « Nous sommes partie prenante de l'humanité et en même temps, nous avons notre destin à part et séparé. » Je vous signale qu'il y a un midrash, un récit célèbre du Talmud, qui fait le lien entre le nom du Sinaï, alors c'est pas une étymologie, c'est un midrash, c'est un jeu poétique sur les mots, entre le nom du Sinaï et Sina, en hébreu, la haine. La haine que portent les nations aux Juifs, mais aussi peut-être, c'est toute l'ambiguïté, la dialectique et peut-être le danger de ce texte, la séparation jalouse des Juifs vis-à-vis du reste de l'humanité. C'est en tension, c'est une dialectique.
Et on la retrouve cette tension d'ailleurs chez Lévinas aussi, dans un texte qui s'appelle « Le clair et l'obscur », magnifique, de difficile liberté. Il fait l'éloge de cette séparation, effectivement, mais d'un herbim.
Je crois que le soupçon que vous portez, à savoir que la judaïsation de l'âme humaine serait en une certaine manière une liquidation des catégories juives elles-mêmes, peut se retourner en une accusation d'avoir judaïsé complètement la philosophie. Je veux dire par là ce sont deux reproches qui sont symétriques mais qui s'équivalent. Le premier reproche consiste à dire on a liquidé le judaïsme. L'autre reproche a été formulé en 91 dans un pamphlet qui s'appelait « Le tournant théologique de la phénoménologie française » de Dominique Janicot, qui consistait à dire « 61, c'est la mort de Merleau-Ponty, c'est la publication de Totalité infinie, donc il se passe en 61 quelque chose, la phénoménologie se théologise. » Et Lévinas est l'initiateur de ce mouvement théologique par lequel la phénoménologie, et jusqu'à nos jours, en un certain sens, a admis une part de théologie jusqu'à devenir presque le prête-nom d'un entrisme théologique. Ce sont deux reproches qui, en quelque manière, sont symétriques l'un de l'autre. Le point est de savoir ce que l'on gagne à ces deux opérations et ce que l'on perd. Ce que l'on gagne à avoir pensé le judaïsme comme fond de l'âme humaine, c'est, et je crois que c'est la pointe de l'œuvre de Lévinas, c'est de faire voir que les relations intersubjectives sont irréductibles à l'immanence. C'est-à-dire que entre vous et moi, il n'y a pas simplement l'horizontalité d'un lien que la philosophie politique a toujours pensé comme une symétrie entre égaux, mais que la relation intersubjective est irréductible à cette immanence, elle introduit inévitablement une dimension de sainteté, c'est-à-dire d'asymétrie. Et je crois que ça, c'est le grand coup de force de Lévinas, de nous avoir montré qu'il y a plus dans la relation à autrui que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Alors on peut appeler ça manière de théologiser la phénoménologie, etc., etc. Mais je veux dire, à soupçonner l'idéologie chez Lévinas, on doit quand même s'interroger sur les propres présupposés idéologiques de ceux qui adressent ce soupçon. Et d'un autre côté, le soupçon inverse, avoir perdu l'essence du judaïsme, Lévinas a répondu à cela. Il a répondu à cela en disant qu'en effet, le judaïsme, aussi bien comme corpus de texte que comme religion, que comme peuple, et bientôt comme État, État d'Israël, le judaïsme doit être conservé pour témoigner de cette élection. Pourquoi ? Parce que dans son histoire, le judaïsme a été en quelque manière l'assignation à la passivité, l'assignation à une condition qu'on ne choisit pas, à la manière dont l'élu, c'est-à-dire la subjectivité elle-même, est assignée à cette condition. Donc la nation juive porte ce témoignage. Et ce qui interdit Lévinas d'aller jusqu'au suprématisme, c'est deux choses. La première chose, c'est justement d'avoir rappelé que l'essence du judaïsme, c'est l'éthique. Et donc, oui, en effet, il peut y avoir des débordements suprématistes du judaïsme, mais ce sont des corruption du judaïsme. Et il n'y a pas de religion, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de doctrine qui ne porte en elle les germes de sa propre corruption, de sa propre adultération. Et ça, c'est inévitable. Et Lévinas le dirait de cette façon-là. Donc l'essence du judaïsme, c'est bien le rapport à autrui. Et que faire de ceux qui l'interprètent comme un suprématisme? Lévinas le dit très clairement dans Totalité et Infini. Je cite les pages de la nouvelle édition, « Depuis la création de l'État d'Israël, Israël n'est pas devenu pire que le monde ambiant, quoi qu'en disent les antisémites, mais il a cessé d'être meilleur. » Il faut prendre acte de cela, c'est une corruption de l'État d'Israël. Et d'autre part, point fondamental, il faut revenir au Talmud, parce que c'est le Talmud qui donne la clé d'interprétation des Écritures juives.
Oui, David Aziz.
Vous voulez ajouter deux choses là-dessus. Personnellement, j'ai un problème avec l'idée que les Juifs aient été meilleurs à travers les siècles. Idée partagée à la fois par les sionistes qui dévalorisent cette supposée vertu extraordinaire, qui la voient comme une faiblesse, et par un certain kitsch anti-sioniste qui consiste à dire en gros qu'avant nous étions bons, aujourd'hui nous sommes devenus mauvais.
Non, avant nous n'avions pas les moyens d'être mauvais.
Mais je pense
c'est
que
cela que veut dire Lévinas dans le texte que
oui,
je cite.
Oui, mais je pense que cela dépend. Le pouvoir n'est pas toujours une question de pouvoir politique ou militaire. On pourrait prendre des tas de cas dans l'histoire juive où des juifs ont eu du pouvoir et l'ont exercé comme quiconque a du pouvoir à mauvais escient. Je suis contre l'histoire lacrymale des juifs. Je suis du côté de Salo Baron. Je pense qu'il y a eu des moments où les juifs allaient très bien en dehors de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, je vous rappelle que, à contrario, en Israël, il y a eu 1200 juifs massacrés il y a un peu plus d'un an. Je m'interroge vraiment sur cette idée que l'absence de pouvoir politique et militaire, c'est la vulnérabilité, une sainte vulnérabilité, et que si on a ce pouvoir militaire et politique, on est forcément... L'autre chose que je voulais...
Lévinas vient, n'oublions pas cela, après la Shoah. Et la Shoah est pour lui l'espèce d'accomplissement de cette destinée juive sur 2000 ans. Qu'ont les juifs après la Shoah? Lévinas dit deux choses. Ils ont, d'une part, leur texte, et d'autre part, leur histoire. Revenir à cette histoire et revenir à ces textes. Ce sont les deux seules mamelles, si je puis dire, auxquelles un judaïsme renaissant après la Shoah doit pouvoir s'alimenter. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de perversion dans l'histoire juive. Ça ne veut pas dire que les juifs n'ont pas exercé d'une manière ou d'une autre, mais de façon toujours réduite, concéder le moi, le pouvoir. Ça veut simplement dire que les textes eux-mêmes nous portent à l'obligation éthique et que d'autre part, l'histoire juive n'a pas été une histoire formidable d'accomplissement, d'exercice du pouvoir. Elle a souvent été une histoire de persécution. Et Lévinas, qui vient de Lituanie et qui a perdu sa famille dans la Shoah, le sait mieux que personne.
Oui, David Aziza, il faut intervenir.
Et l'autre reproche que je ferai à cette approche, c'est cette façon de traiter le corpus juif comme un tout. C'est amusant pour une philosophie de l'altérité de dire le Talmud. Mais enfin, dans le Talmud, vous avez de la marloquette, de la controverse, vous avez des gens qui sont en désaccord.
Mais c'est ce qu'il dit tout le temps.
Oui,
personne
alors...
Ne dit tout le temps, Lévinas.
Mais sauf que quand vous lisez une lecture talmudique de Lévinas, vous voyez assez peu, à mon sens, qu'au-delà du fait qu'on se chamaille sur des petites vétilles, vous avez des époques qui dialoguent entre elles. C'est pas un dialogue platonicien. Vous avez des gens qui ne se sont jamais connus. Vous avez des siècles. Vous avez des langues. Est-ce que dans une lecture talmudique de Lévinas, vous voyez que l'on passe parfois dans une même ligne de l'hébreu à l'araméen, voire d'un dialecte araméen à l'autre?
Sur le rapport de l'hébreu au grec. Mais là, ce que le grec ne pouvait pas penser.
Non, mais là, je ne parle pas de l'hébreu au grec. Je parle de la polyglossie du Talmud et le fait que le Talmud lui-même n'est pas un tout organique. Ce n'est pas un livre. Mon maître en Talmud me disait un jour, on ne lit pas le Talmud.
Mais Lévinas l'a étudié, certes, il ne cesse d'en appeler justement à l'étude la plus précise.
Alors, mais après, il en parle comme d'un tout. À la fin, derrière cette controverse, il y a une vaste unité. On n'entend jamais que, par exemple, la voix anonyme du Talmud, la voix de ceux que les savants, depuis David Weiss à Livni, appellent les Stamaïm, n'est pas la voix des rabbins. Et les voix des rabbins elles-mêmes divergent considérablement. Encore une fois, on parle de 5 à 6
oui,
siècles.
En même temps, ce que dit Lévinas, c'est que le Talmud, c'est la lutte avec l'ange, c'est-à-dire la lutte justement avec la généralisation, la conceptualisation. Il dit, et ça pourrait s'appliquer tout aussi bien à la littérature, c'est la surveillance du général à partir du particulier. Donc c'est quand même tout cela qu'il veut nous faire voir dans le Talmud, texte contre lequel s'étaient accumulés d'énormes préjugés et dont il a essayé très modestement, il ne cesse de le répéter, de restituer l'importance et la grandeur d'un herbivore.
David, vous écrivez en quatrième de couverture de votre livre, « Pour le meilleur comme pour le pire, le judaïsme est resté païen ». Vous aussi, vous cédez allègrement aux grandes catégories. De quel judaïsme parlez-vous quand vous dites qu'il est resté païen et de quel paganisme parlez-vous? On pourrait aussi dialectiser les approches et refuser les concepts.
Alors absolument, mais ça c'est la quatrième de couverture.
Vous notez que je sors de tes pages.
Oui, parce que précisément, cette question-là, j'y réponds. Par exemple, on pourrait m'accuser d'autre chose, c'est-à-dire de prendre comme tête de Turc, au moins à un certain moment, l'une des plus grandes autorités du judaïsme, à savoir Maïmonide, précisément parce que Maïmonide, et je n'irai pas jusqu'à dire que Maïmonide n'est pas juif, mais précisément parce que Maïmonide incarne une certaine tendance à la dépaganisation du judaïsme, et je pense, Alain Finkielkraut, que ça fait écho à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, en allant jusqu'à vouloir faire du dieu juif le dieu de l'humanité entière. Je prétends, moi, que cette utopie-là, qu'on trouve expressément chez Maïmonide, ça n'est pas l'utopie hébraïque, ça n'est pas l'utopie de la Bible. Deutéronome chapitre 4, vous avez votre Dieu, c'est moi, c'est le Dieu qui s'adresse à Israël, mais les autres peuples ont les astres, les forces de la nature,
oui,
les autres dieux.
Le Dieu 1, c'est quand même ce qui fonde l'idée d'humanité. Et l'idée d'humanité, ça, elle nous vient de l'Ancien Testament. Ça, je pense que ce que dit Robert Legros est indéniable.
Ça, c'est indéniable. Mais ce qui est indéniable aussi, c'est que, et là, on pourrait faire toute une typologie de la Bible jusqu'à Moses Mendelssohn, en passant par les Tosafistes et la Kabbale. Le Zohar, Maïmonide exclu. Toute une typologie, justement, du rapport à cette unité divine. La Bible dit et répète à plusieurs reprises que les autres peuples ont d'autres dieux et que ça convient ainsi.
Lévinas aura d'ailleurs beaucoup insisté dans « À l'heure de la nation » sur les 70 langues. C'est-à-dire qu'il y a 70 peuples, 70 langues, que la Torah elle-même a été donnée en 70 langues, ce qui ne veut pas dire que la Torah est Torah de chaque peuple, mais ça veut dire que chaque peuple décèle une parcelle de vérité de la Torah. C'est un rapport personnel, national, linguistique, puisque vous parliez des langues tout à l'heure, à la vérité. Je vous rappelle aussi que dans Difficile Liberté, Lévinas écrit cette chose extraordinaire. La conscience d'être une nation implique la conscience d'un destin exceptionnel. Toute nation digne de ce nom est élue.
Ça, c'est très beau.
Et c'est extraordinairement beau.
Et je souscris à ça.
C'est très beau. Mais alors, là, je voudrais...
Pardon de vous interrompre. Je pense même que le rôle du peuple juif en tant que peuple élu par excellence est précisément, pour aller dans le sens de Lévinas à cet égard, de révéler aux autres nations leur propre part, comme je disais tout à l'heure, de divinité, mais donc d'élection.
D'exceptionnalité.
D'exceptionnalité, absolument.
Très bien.
Le caractère divin de leur singularité.
Je voudrais maintenant revenir à l'actualité. Et justement, c'est à ce que deviennent les catégories juives essentielles, l'élection, le messianisme, quand elles sont jetées dans l'arène politique. Et je me réfère ici à un discours prononcé à la Knesset par un rabbin libéral, Gilad Kariv. Et c'était au moment de la fête de Hanouka. Alors je rappelle très brièvement ce qu'est Hanouka. C'est une fête qui célèbre la victoire des Maccabées sur les troupes syriennes d'Antiochus Épiphane et la réinauguration du Temple de Jérusalem, sanctifié par le miracle de l'huile. Après avoir repris Jérusalem et purifié le Temple des images et des statues païennes, quand même, les zélotes de la foi veulent restaurer le culte du Dieu un et rallumer les lumières quotidienne du chandelier à cette branche. Seulement voilà, ils ne trouvent qu'une seule fiole d'huile pure, tout juste suffisante pour 24 heures. Ils ont besoin de 8 jours pour préparer l'huile. Un miracle se produit, l'huile de la petite fiole dure les 8 jours nécessaires, voilà ce que commémore Hanouka. Eh bien, en ces jours de Hanouka, Gilad Kariv interpelle Itamar Ben-Gvir et les sionistes religieux. Vous êtes là et vous nous parlez des Maccabées. Allez donc apprendre un chapitre de l'histoire des Maccabées, un chapitre de l'histoire d'Israël. Apprenez comment les Maccabées étaient les premiers à aller au combat, mais comment ils étaient les premiers à conduire des alliances politiques. Apprenez aussi comment, du temps des Maccabées, le grand renouveau de la préservation de la vie l'emporte sur l'observance du Shabbat, comme il est dit dans le livre des Maccabées. Et il dit, où dans la tradition d'Israël avez-vous appris cette bassesse morale qui amène des députés à se tenir ici, à ce pupitre, pour dire que parmi les 2,3 millions de Palestiniens, il n'y a pas un seul innocent. Quand cette mutation religieuse, spirituelle, nationale et morale est-elle apparue dans vos communautés ? Un homme qui se lève et dit qu'il n'y a pas une seule personne innocente parmi les 2 300 000 ne porte pas fièrement la Torah d'Israël, il la déshonore, une honte morale de l'idolâtrie. Et il termine en disant « Nous honorons la guerre contre la machine à poison et nous honorons la guerre contre le messianisme mensonger, nationaliste, raciste et fondamentaliste qui empoisonne et anéantit l'esprit d'Israël. » Et là, on voit que le conflit qui aujourd'hui a lieu en Israël, eh bien, n'est pas simplement une bataille politique, c'est véritablement une bataille métaphysique entre deux conceptions du judaïsme et même entre deux visions de l'histoire sainte. Alors, j'ajoute pour finir que, au risque d'irriter certains auditeurs, cette idée qu'il n'y a pas d'innocents parmi les habitants de Gaza, ce n'est pas cette idée qui guide l'action de l'armée israélienne. Aussi meurtrière soit-elle, la guerre à Gaza n'est pas un génocide, contrairement à ce que martèlent Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Cette terminologie vit seulement à nazifier les sionistes et à renverser contre eux la mémoire de la Shoah. Mais simplement, voilà ce qui se passe. Un rabbin nous explique que certains sont en train effectivement de trahir la Torah. C'est pas un conflit entre laïcs et religieux, c'est un conflit entre deux visions du judaïsme.
Mais vous avez parfaitement raison. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de texte, de croyance ou de dogme qui ne se prête à sa perversion. Il faut que la religion soit sous surveillance, si je puis dire. Mais là, en l'occurrence, ce que vous soulignez, c'est que les religieux se mettent sous surveillance mutuelle. Évidemment, dans le suprémacisme religieux et dans tous ceux qui s'autorisent de la Bible pour dire que il n'y a pas un seul innocent à Gaza, etc., il y a une corruption épouvantable du message biblique. Il faut le dire très fermement. Je crois que jamais Lévinas n'aurait accepté une telle entreprise et de tels discours. Donc ça doit être dit avec force. Alors, il est beau par ailleurs que Israël soit un lieu où l'on puisse dire de telles choses, c'est-à-dire où on puisse rappeler aux religieux qu'ils sont infidèles à leur propre message. Voilà, si vous voulez, c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ce que dira aussi Spinoza par ailleurs, c'est-à-dire les religions sont infidèles à leur propre texte, à leur propre message. Et puis, je voudrais souligner une dernière chose qui est importante et que nos auditeurs doivent savoir, c'est que l'idée que la réunion de tous les juifs en Israël, dans un grand Israël, serait la condition de l'advenue d'un Messie, en chair et en os, si je puis dire. Cette idée a quand même été abandonnée par la plupart des juifs du monde. Le messianisme juif aujourd'hui signifie un horizon d'apaisement, un horizon de paix, de pacification. Et il est bien plutôt vu comme l'espoir ou comme le moteur d'un rêve que comme l'advenue d'une personnalité extraordinaire, guerrière ou chevaleresque. Et d'autre part, pour en revenir à Lévinas et à la rigueur du concept, parce qu'on manipule beaucoup d'idées sans rigueur de concept. Pour en revenir à la rigueur du concept, dans un texte magnifique de Difficile Liberté, Lévinas nous explique que toute subjectivité est messie pour autrui, précisément parce que, qu'est-ce que c'est qu'être messie ? C'est être secourable, c'est porter secours à autrui et endosser les souffrances d'autrui. Il serait bon qu'Israël, dans une certaine mesure, se rappelle cela, et il est bon aussi, dès lors, que la politique israélienne soit sous surveillance des propres textes qu'elle est censée véhiculer et porter à la lumière des nations.
Alors, Lévinas, en effet, dit ceci, en se référant à une des voies du Talmud, et non pas au Talmud comme un tout, le Messie c'est moi, le fait de ne pas se dérober à la charge qu'impose la souffrance des autres, définit l'ipséité même, d'où cette phrase « toutes les personnes sont messies ». On est très loin, en effet, du messianisme de Ben-Gvir ou de Smotrich.
Alors, sur ce point précisément, Lévinas, et je souscris complètement à sa démarche, s'inscrit dans ce que Scholem a appelé la neutralisation du messianisme. Et moi qui suis bien plus scholémien que lévinassien, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme de neutralisation, car je pense que les efforts de neutralisation, pour citer Scholem, sont en vérité des efforts, dans le chassidisme par exemple, pour renouer avec la vitalité authentique du mythe messianique. Parce qu'en vérité, quand ce mythe est ramené à des conceptions politiques triviales, comme celle de Ben-Gvir, de Smotrich, etc., ou même parfois dans certaines conceptions traditionnelles, folkloriques du Messie, en vérité, on n'est pas dans un mythe plein de vitalité, dans un mythe mesquin et ossifié.
Et David, que vous nous expliquiez à un moment ce que vous entendez par mythe. Parce que,
avec
pour avoir lu votre livre, je ne trouve aucune définition en forme du mythe.
Pourtant, c'est dans la cinquième page du livre.
Écoutez, j'ai trouvé deux ou trois formules, mais je ne trouve rien de significatif sur ce point.
Alors,
juste un point. Vous aplatissez mythe, rite, sacré. On a un aplatissement des concepts qui se recouvrent les uns les autres, sans qu'on puisse évidemment savoir de quoi il est question. Je vous donne un exemple. Ce qui parfaitement pourrait convenir au mutos dans le Talmud, c'est ce qu'on appelle la Haggadah, c'est-à-dire les histoires de rabbins que Lévinas commente abondamment. Il y aurait ici une acception du concept de mythe qui serait bon d'analyser. Je trouve que, sur le plan du sérieux conceptuel, votre livre pêche un petit peu.
Je vais vous répondre là-dessus, laissez-moi, avant de dériver là-dessus, laissez-moi quand même répondre sur le messianisme. Mais ce que vous dites est assez inexact, puisqu'en vérité, je définis le mythe de façon extrêmement précise, dès la cinquième ou sixième page du livre, et non pas en me référant au mythos platonicien, mais aux historiens du mythe, puisque en l'occurrence, je pense que les historiens sont plus intéressants que les philosophes, à savoir, par exemple, Mircea Eliade. Et quant au lien entre mythe et sacré, mythe et rite, j'en parle à longueur de temps, et notamment dans la deuxième partie du livre, qui est la partie un peu méta, celle où je réfléchis précisément sur l'actualité des mythes, et ce que ça signifie que le sacré, etc., etc. Et c'est la partie où je m'en prends en particulier à l'idée lévinassienne de désacralisation. Je reviens au messianisme. Lévinas distingue dans Totalité infinie entre téléologie et eschatologie. Et pour lui, le messianisme juif authentique serait du côté de l'eschatologie, ce qu'il définit ainsi en tout cas, et non de la téléologie, c'est-à-dire d'une structure où le présent est dévalorisé par rapport à l'accomplissement futur. Fort bien. Là où je ne suis pas d'accord avec Lévinas, c'est que malheureusement, cette conception n'est pas majoritaire dans le judaïsme. On aimerait qu'elle le soit. On aimerait que ce que le Scholem appelle neutralisation du messianisme est dominé. Et il n'y a pas que le chassidisme. Cette neutralisation dont parle Scholem, elle existe déjà chez Abou Lafia au XIIIe siècle. Chez Abou Lafia, chaque homme a effectivement un potentiel messianique, un potentiel sacerdotal et royal en même temps. C'est formidable. Mais ce n'est pas majoritaire. Et je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Dan Arbib, quand vous dites qu'aujourd'hui, la plupart des juifs intellectuels du quartier latin ne croient pas réellement qu'un messie de chair et de sang va arriver pour détruire les nations et reconstruire le temple.
Mais en Israël, ce n'est pas très majoritaire, cette idée, quand même.
Cette idée que le temple doit être reconstruit,
oui,
que les sacrifices doivent reprendre.
Elle existe, mais elle est très minoritaire. Elle est portée, justement, par Ben-Gvir et les autres.
Est-ce qu'on entend par majoritaire? Qu'est-ce qu'on entend par majorité?
Non, mais il faut distinguer le fait qu'on donne de la voix. On peut être minoritaire et donner de la voix et être servi d'ailleurs par des dispositions constitutionnelles qui vous fait faiseur de roi.
Ben-Gvir et Smotrich sont au gouvernement.
Ah oui, mais ils sont au gouvernement parce que règne en Israël la proportionnelle intégrale.
Bon,
donc ce sont des minorités.
Alors ne parlons pas, ce sont des minorités, mais ce n'est pas des minorités marginales. Mais ne parlons pas de Ben-Gvir et Smotrich. Demandez, aller dans une synagogue, je pense que ça vous arrive, Dan Arbib, mais demandez aux piliers de synagogue s'ils croient que le temple doit être reconstruit et les sacrifices doivent reprendre quotidiennement. J'en connais beaucoup qui pensent que oui.
Je vais vous faire une petite plaisanterie. Quand vous êtes dans une synagogue et que vous célébrez un mariage, il arrive que le rabbin finisse son discours en disant « Et nous prions tous pour la venue du Mashiach, du Messie » et il ajoute « Mais tout de même, après la fête ». Parce qu'il ne s'agirait pas que le Messie vienne gâcher la fête qui doit avoir lieu ce soir.
Donc voilà.
C'est-à-dire que cette croyance est toujours vidée ou un petit peu dialectisée par de l'humour, par de l'ironie, par de l'auto-ironie. Il faut savoir introduire...
comme moi des gens qui n'ont pas cet humour. Et ils existent, ils sont présents dans les institutions juives. En France, peut-être moins qu'en Israël. Mais enfin, absolument.
Je crains qu'à fabriquer des ennemis de papier, vous guerroyez trop.
Non, ce n'est pas des ennemis de papier. C'est une réalité politique et religieuse du judaïsme contemporain. Il y a tout un pan, par exemple, même dans le judaïsme Chabad, Lubavitch, qui est expressément meshichiste, comme on dit en franco-yiddish, messianique, c'est revendiqué, c'est dit. Quand vous allez à New York, les rues sont pleines de posters à l'effigie de ceux qui considèrent comme le Mashiach.
Le judaïsme est majoritairement libéral et donc très peu enclin à ce genre de facilité.
Mais
en plus, j'ajoute quand même...
D'abord, ça, c'est pas vrai. Le judaïsme américain n'est pas majoritairement libéral, mais...
J'ajoute quand même que le messianisme pur et dur... est antisioniste. Si vous vivez dans l'attente du Messie, vous pensez que c'est pas aux hommes eux-mêmes à décider du moment du retour à la terre promise.
Je vais dire un mot là-dessus. Oui et non.
David,
Maïmonide a une opinion complètement différente de la venue des temps messianiques. Pour Maïmonide, qui est un réaliste, le messianisme, c'est l'affaire des hommes. Et c'est aux hommes eux-mêmes de construire le temple. Le temple ne descendra pas du ciel. C'est au Messie d'être un conquérant. Et il me semble d'ailleurs que dans les derniers chapitres du Mishneh Torah, Maïmonide est à cet égard assez proche de l'idéal islamique de la conquête religieuse, de l'idéal almohade. Il y a un travail de Sarah Strumza là-dessus, qui date d'il y a quelques années, sur la manière dont Maïmonide a modelé sa pensée sur cet idéal religieux-là. Et je dois vous dire que quand Ben Gvir, Smotrich, Kahana, il y a une trentaine d'années, disent « ce que nous voulons, c'est un état halachique maïmonidien » au sens du Mishneh Torah, ça veut dire qu'à terme, les chrétiens, il y a pas mal d'hindous en Israël dans les professions de service, passeront un mauvais quart d'heure. Parce que Maïmonide dit explicitement que dans ces conditions-là, les non-juifs qui ne se soumettent pas au joug messianique, c'est la mort.
Alors, juste savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des textes et des doctrines et des concepts
ou bah là, si je parle des textes. Là, je vous cite le
chapitre. Si on fait au doigt mouillé du fait juif israélien. De toute façon, il faut se donner un petit peu de rigueur sur ces questions et je ne suis pas sûr qu'une sociologie.
Alors, à propos de rigueur, je peux vous répondre sur les mythes, les rites et le sacré.
Non, mais attendez. D'abord, je voudrais citer Gershon Scholem. C'est une citation que je puise dans le très beau livre de Michael Walzer, de l'Exode à la liberté, essai sur la sortie d'Égypte. Parce que le mythe de l'Exode, et si vous voulez, c'est un mythe profondément ancré dans l'Occident tout entier. Cette idée de la libération par le passage dans le désert et la sortie d'Égypte. Mais Scholem dit ceci, « Je réfute absolument l'idée que le sionisme soit un mouvement messianique. Le salut du peuple juif que je désire en tant que sioniste n'est en rien identique au salut spirituel que j'espère dans l'avenir. L'idéal sioniste est une chose, l'idéal messianique en est une autre, et les deux ne se rejoignent pas, si ce n'est dans la pompeuse phraséologie des rassemblements de masse. » Donc ça, c'est quand même important. Oui, vous voulez.
Et alors justement, ce que je veux dire sur ce point, qui me paraît fondamental, si on accepte que l'Exode soit un mythe fondateur auquel toute pensée occidentale et surtout juive se rapporte, c'est que le peuple juif porte en lui la trace de cet Exode initial. La Bible dit très souvent, souvenez-vous que vous avez été étranger en terre d'Égypte. Autrement
aimez
dit,
l'étranger
aimez
vous
l'étranger
vous
car vous avez été vous-même.
Étranger.
C'est plus qu'un mythe, une expérience fondatrice que les Juifs se rappellent, notamment lors de la Pâque. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que même au moment où un Juif habite l'État d'Israël reconstruit ou créé ou recréé, suivant l'orientation idéologique à laquelle on appartient, il faut habiter la terre en nomade.
Oui,
c'est-à-dire
c'est
que même
ça, c'est très évident,
la possession, exactement, même la possession de la terre d'Israël n'est pas une possession jalouse à la manière dont Barrès pouvait le définir pour l'identité française ou à la manière dont Heidegger veut faire dépendre la condition humaine du sol, du sang et de la race. C'est
une
manière.
Tout à fait Heidegger, ça, le sol.
En tout cas, tel que Lévinas l'interprète.
Et, oui.
Et je pourrais
vous bien sûr.
La dernière
sûr.
Lettre à Derrida,
oui.
Du volume que nous avons fait paraître, où Lévinas dit lui-même à Derrida, Heidegger n'est pas lui-même fidèle à l'étrangeté du monde, envers le monde, parce qu'il a quand même une idéologie du sol et de la race. Ça,
ouais.
Il le dit, et de la terre.
Ouais,
donc,
oui.
Il est très... donc il faut savoir être sioniste sans idéologiser et sans faire de la terre une espèce de bosquet sacré auquel nous appartiendrions.
Alors, David Agizor, je vais dire deux choses. Sur Scholem, Scholem a très bien vu, dès les années 60, le danger messianique dans la politique israélienne, avec l'émergence du Gush Emunim. Et le côté, effectivement, sol et sang de cette nouvelle idéologie, il parle de contamination du messianisme juif par Canaan. Il est un peu méchant avec Canaan, mais peu importe. Canaan, c'est cette idée, effectivement, d'enracinement mortifère de culte de Moloch à travers le culte de la terre. C'est un danger, il y aurait des nuances à apporter, on a pas le temps d'en parler là. Mais moi, j'ajoute une chose, c'est que dans la critique juive du messianisme, et on parle de texte là, je me réfère à Nachmanide, 1263, la controverse de Barcelone. Nachmanide, vous savez, c'est un moment célèbre de l'histoire juive, il polémique avec un apostat, Pablo Cristiani, dominicain. Nachmanide dit le messie n'est pas venu, il donne un certain nombre d'arguments fascinants. L'un d'entre eux, c'est la proximité, selon Nachmanide, peu importe que ce soit vrai ou faux, c'est le message qui est intéressant en l'occurrence, entre le messie chrétien et le pouvoir. Et alors, Nachmanide fait une erreur chronologique qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il situe Jésus au temps des Asmonéens. On sait bien que Jésus n'a pas vécu au temps des Asmonéens. Vous parliez tout à l'heure du miracle de Hanouka. Dans la tradition juive, on ne célèbre pas les Asmonéens. On ne célèbre pas la victoire militaire contre Antiochus Épiphane. La dynastie asmonéenne, établie à partir de là, était une dynastie sanguinaire et corrompue. On célèbre, comme vous l'avez dit, le miracle de l'huile, qui n'est pas mentionné dans le livre des Maccabées, mais qui est mentionné dans le Talmud, 5 à 600 ans plus tard. Et c'est un miracle spirituel. Ce que les Asmonéens eux-mêmes ont fait, on n'en parle pas, parce que c'est le pouvoir. Et Narmanide dit à Pablo Cristiani, votre Messie était un homme de pouvoir. Et là, ce à quoi on assiste aujourd'hui, avec le messianisme des Ben-Gvir, des Smotrich, etc., c'est pire que ce que Scholem voyait dans les années 60. C'est pas un messianisme cananéen. Il y aurait déjà beaucoup à en dire, effectivement. Le culte de Moloch, le sacrifice des enfants. C'est un messianisme asmonéen. C'est le messianisme d'homme de pouvoir. C'est un messianisme complètement débarrassé de son potentiel utopique. On est dans un pur restaurationnisme et effectivement un fantasme de retour à un Israël qui n'a jamais existé, un temple en carton-pâte ou en intelligence artificielle, comme dans le roman Le Troisième Temple de Ishai Sarid. Et ça, en fait, c'est le pire du messianisme possible. Maintenant, là encore, je pense que le judaïsme a des ressources extraordinaires pour déjouer ce messianisme.
Alors justement, vous dites que le judaïsme a des ressources et vous dites qu'il y a une, dans la Bible, il y a une corruption du message biblique par les messianistes aujourd'hui au pouvoir. Et j'en reviens quand même à ce moment-là à la présence de la violence dans la Bible. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et qu'en fait Lévinas ? Vous avez parlé de Canaan, David Aziza. Oui, mais il y a cet épisode de Josué, les trompettes de Jéricho. Donc, trompettes de Jéricho, les murailles s'effondrent.
Et les habitants sont passés au fil de...
Et voilà ! Et ça, je lis la très belle traduction très ancienne de Le Maître de Sacy. Ils tuèrent tout ce qui s'y rencontrait, depuis les hommes jusqu'aux femmes, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ils firent passer aussi au fil de l'épée les bœufs, les brebis et les ânes. C'est d'ailleurs ce qui a conduit Marcion, l'évêque hérétique du IIe siècle, à dire qu'il n'y avait aucun rapport entre le Dieu jaloux, vindicatif, cruel de l'Ancien Testament et le Dieu d'amour de la Nouvelle Alliance. Ce n'était pas le même Dieu. Et ce marcionisme, je le revois à l'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire, même s'il n'est pas avoué comme tel, voilà, regardez comment se comportent les Juifs, c'est exactement comme Josué à Canaan, c'est-à-dire. Et Hitler lui-même, dit Jean Solaire dans la violence monothéiste, était finalement un disciple de Josué, parce que c'est le théorème de Mein Kampf qui était déjà appliqué à cette époque. Bon,
on connaît tous ces excès. Un retournement assez nauséabond de la
Mais justement, la question, c'est que faire de cette violence-là ? Et comment Lévinas réagit-il ?
Alors, toutes les religions et tous les corpus religieux ont affaire avec l'absolu. Et qui dit absolu dit inconditionné et peut entraîner les actes effectivement les plus épouvantables. Sur ce point, il y aurait deux choses à dire. D'abord, la première chose, c'est que on nous dit beaucoup aujourd'hui dans l'espace public qu'il faut critiquer les religions, mais pas les religieux, pas les croyants eux-mêmes. On peut parfaitement être réservé sur cette formule, parce qu'au fond, ceux qui sont responsables du mauvais usage et des mauvaises lectures qu'ils font, ce sont les religieux. Il faut critiquer les religieux, le clergé, tous les croyants, qui font de leur propre texte une mauvaise interprétation. La bonne interprétation, et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, selon Lévinas, c'est que jamais la Bible ne doit se lire sans le Talmud.
Oui.
Et alors, sur ce point, c'est absolument fondamental.
Le Talmud ne fait pas l'économie de ça.
Sur ce point, c'est absolument fondamental, parce que la religion juive telle qu'elle s'est historiquement construite, autrement on parle d'abstraction, si on parle de la Bible, etc., on parle d'abstraction. Ce qui se passe, c'est une religion qui se construit historiquement sur la base de textes qu'elle écrit, qu'elle révise, qu'elle discute. Si l'on prend ces textes, naturellement, on en fait voir le rapport de complémentarité qu'ils ont avec les textes écrits, et on s'aperçoit, par exemple, pour ne citer qu'un exemple que j'ai en tête, j'ai pas en texte les discussions talmudiques sur Josué, mais au moment où Pinhas tue l'homme qui a eu un rapport avec une femme étrangère dans la Bible, les rabbins et Rashi le premier, donc le plus grand des commentateurs, celui qui est annexé à toutes les Bibles encore disponibles dans toutes les synagogues, disent « il a commis, Pinhas, une injustice et une infamie ». C'est-à-dire que les rabbins eux-mêmes sont extrêmement réservés sur l'acte qu'ils commettent, et ce qui se produit, c'est qu'alors dans le texte biblique, Dieu vient pour dire « je suis du côté de Pinhas », ce qui est très étrange parce qu'on a les rabbins dès lors hostiles à la position que prend Dieu. Et ce qui se passe, c'est que dans le texte de la Torah, dans le rouleau sur parchemin, la lettre vav du mot shalom, du mot paix, est alors brisée. C'est un apax dans le texte, est alors brisée pour signifier que cette paix s'établit sur des ruines. Elle est d'abord endommagée. Donc, Ce qu'ont à faire les croyants sur la base des textes bibliques, nous dit Lévinas, c'est se replonger dans le Talmud pour faire, encore une fois, droit aux particuliers, comprendre le sens de tout cela. Alors le marcionisme, maintenant, d'où vient-il ? Il vient du refus de la tradition talmudique. Et précisément, ce dont Lévinas...
Ah oui, la tradition talmudique n'existe pas à l'époque de Marcion, il faut arrêter un petit peu. Il faut être un petit peu historien. David, le Talmud n'existe pas à l'époque de Marcion.
Mais Marcion, c'est pas au nom de la violence. C'est encore
le Talmud, c'est 4 siècles plus tard, enfin.
On parle de marcionisme au sens d'une volonté de rompre le Premier Testament et le Second, c'est-à-dire de rompre le fil qui lie le christianisme du judaïsme. Lévinas va trouver du marcionisme, et c'est à mon avis incontestable, chez Simone Veil. Et que lui dit-il Difficile Liberté ? Simone Veil, vous ne connaissez pas le judaïsme. Autrement dit, vous n'avez pas entendu la parole du Talmud. Si vous aviez entendu la parole du Talmud, vous auriez vu que cette parole du Talmud, qui n'est encore une fois pas accessoire, qui n'est pas secondaire, qui est aussi Torah que le texte biblique lui-même. Cette parole du Talmud ne cesse de démanteler les germes de violence que porte le texte écrit. La Torah orale est aussi sainte que la Torah écrite, et c'est pourquoi Lévinas termine par cette magnifique formule « Il faut aimer la Torah plus que Dieu ». Il faut aimer la Torah plus que Dieu, c'est-à-dire aimer la rationalité de l'échange et de l'éthique infiniment plus que l'absolu divin qui nous écrase et qui constitue une extrapolation incontrôlable.
Je vais répondre à ça, je pense que je pourrais effectivement souscrire à cette idée. Maintenant, je veux dire, c'est quand même extraordinaire de traiter le Talmud comme une telle essence monolithique. Encore, prenons des exemples concrets. La discussion du Talmud sur, puisque vous parliez de violence monothéiste, Alain Finkielkraut, j'aimerais dire quand même une chose. Le génocide cananéen, il a jamais eu lieu. Marcion, il connaissait pas l'archéologie et la critique biblique. Non, ça n'a jamais eu lieu.
C'est écrit noir sur blanc dans la Bible.
Vous savez que la Bible n'est pas un livre d'histoire et encore moins un livre
d'archéologie. Non, je sais bien, mais
c'est vrai que les rabbins.
Que fait-on de ce texte ?
C'est vrai que les rabbins ont tendance à le prendre littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce texte ? Déjà, on le prend. Alors déjà, de quel texte ? C'est compliqué, il faudrait entrer dans des considérations sur l'histoire deutéronomique, etc. C'est essentiellement ce que les critiques bibliques appellent l'histoire deutéronomique, qui parle d'annihilation de Canaan, c'est-à-dire le Deutéronome, Josué, etc. Vous trouvez pas ça dans les autres couches de la Bible. Et pour le dire en un mot, je pense qu'à l'époque, quand ces textes sont diffusés, les Israélites comprennent très bien que le Canaan, c'est eux. C'est pas un peuple étranger, c'est eux. Canaan, c'est vous. D'ailleurs, c'est dit assez explicitement, ne faites pas comme les Cananéens, etc., etc. Canaan, c'est vous-même. Ce qui renvoie d'ailleurs à des formes, pour le coup, attestées de violence juive. Par exemple, dans le Pentateuque, il est question du fils rebelle. Alors, vous allez me dire, dans la Bible, le Talmud dit le fils rebelle n'a jamais existé, etc., etc. Mais vous savez aussi qu'il y a deux opinions, en fait. Et il y en a un qui dit, le fils rebelle, amené par ses parents devant le tribunal, est mis à mort, non seulement il a existé, mais j'ai mangé sur sa tombe. Et dans la même discussion, il est question de la fameuse cité rebelle ou corrompue. Il y en a un qui dit « une telle extermination n'a jamais eu lieu, Dieu merci ». Et l'autre dit « bien sûr que si, ça a eu lieu ».
C'est ça qui est formidable, justement, c'est qu'il y a deux opinions.
Ah
c'est
ça, cela qui est formidable. Je suis d'accord, mais ce qui n'est pas formidable de la part de Lévinas, c'est de faire comme si l'autre opinion, celle qui dit que la cité Iraninahat n'a pas existé, de faire comme si cette opinion-là n'existait pas et n'avait pas un potentiel destructeur que l'on peut réactiver.
Il donne un poids à la controverse. C'est-à-dire que le fait de la controverse n'est pas une opinion comme une autre. La controverse entre une opinion stricte et une opinion éthique...
La question est de savoir si Smotrich et Ben-Gvir peuvent réactiver aujourd'hui quelque chose qui est présent dans les textes. À cette question-là, je réponds oui.
Moi aussi, je réponds oui.
Mais c'est présent dans les textes.
Mais on a très vite répondu oui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat sur cette
question. On utilise les textes contre eux-mêmes. On utilise les textes contre eux-mêmes parce qu'on a aussi cette ressource-là, Dieu merci.
Voilà. Ah ben, très bien. Donc, c'est une très belle conclusion. Merci, messieurs, pour cette discussion très intense. David Aziza, vous publiez « Mythe juif, le retour du sacré ». Aux éditions Kalman Levy, dans la belle collection Diaspora. Je voudrais citer aussi le livre émouvant de Salomon Malka, samedi prochain à Auteuil, Les leçons de Lévinas aux éditions du Cerf. Et puis donc, vous avez coordonné avec Daniel Cohen-Lévinas, Dan Arbib, le 4e tome des œuvres complètes de Lévinas, dossier totalité infinie, donc ce n'est pas totalité infinie, ce sont les brouillons, les esquisses de totalité infinie, c'est passionnant et en même temps j'ai pensé à ce vers de Vladimir Holan, le poète tchèque cité par Kundera, de l'esquisse à l'œuvre, le chemin se fait à genoux. là, vous prenez le chemin à l'envers, en quelque sorte. Mais cela nous apporte en effet certaines lumières.
Oui, parce que je crois qu'après que Lévinas a été une espèce de porte-drapeau des droits de l'homme et de la tolérance universelle, il importe maintenant de comprendre Lévinas. Et si on veut comprendre Lévinas, il faut faire un travail scientifique. Et ce travail scientifique nous est permis par les brouillons, les esquisses et les premières ébauches.
Oui, c'est vrai. Et il y aurait beaucoup à dire sur ce discours qui fait de Lévinas une sorte de pape François de la philosophie, un apôtre de l'hospitalité inconditionnelle. Bon, nous n'avons pas le temps. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandre Lamalka, à la technique aujourd'hui, Julien Girard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Que reste-t-il du vivre ensemble ?» Mes invités seront Jérôme Fourquet et Pierre-Henri Tavoyot, dans un instant « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeanneney.